Washington.
Devant ces microphones, Nani Talani, il est 8h en temps universel. Bienvenue à ce bulletin d'information. Au Burkina Faso, des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Le projet Target Malaria envisage d'effectuer dans les prochains mois un lâcher expérimental, mais le procédé est décrié par des organisations de la société civile qui craignent une catastrophe. En septembre, le projet a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité pour procéder à des lâchers de moustiques génétiquement modifiés mâles, stériles, sur deux sites d'études. Mais le collectif citoyen pour l'agroécologie, regroupant une soixantaine d'organisations, est radicalement contre le projet, estimant que le risque zéro n'existe pas, surtout avec des manipulations génétiques. En Guinée, l'opposition a décidé de maintenir l'organisation d'une manifestation ce mardi à Conakry, en dépit de son interdiction, une semaine après la mort d'un manifestant lors de deux journées ville morte. L'opposition proteste contre la violation, selon elle, par le pouvoir, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. L'installation des élus communaux a commencé au début du mois sous la supervision de délégués du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais l'opposition accuse notamment le pouvoir de corrompre certains de ses élus pour s'assurer le contrôle des mairies à travers le pays. Au Mali, aucun représentant de l'État n'est dans cette commune depuis de plus de 16 000 habitants dans le cercle de Goundam. On parle ici de Tonka, capitale de la patate douce jaune. Cette année, la crue a dévasté les champs de céréales et de tubercules. Avec la montée des eaux, plusieurs cultivateurs ont presque tout perdu. Tonka manque d'eau potable, d'électricité et de sécurité. On y dénombre de multiples cas de viol de la part d'hommes armés non identifiés. Personne ne peut aller au-delà de 5 km ou à une foire hebdomadaire. Kassim Traoré, qui se trouve dans la région de Tombouctou, s'est rendu à Tonka.
Tonka est l'une des communes rurales du cercle de Goundam. Ici, les jeunes gagnent très bien leur vie, surtout en cette période de crue. Aujourd'hui, avec l'insécurité, aucun piroguier ne peut aller d'une berge à une autre. Mamadou Konipo, maire de la commune rurale de Tonka.
Quand tu quittes ici aujourd'hui pour aller dans les foires ou dans les villages, tu es braqué, on prend tout ce que tu as comme ressources. Donc même si les gens vont aller vendre leurs petits chèvres, leurs petits moutons pour leurs besoins. Entre deux villages, ils sont braqués et les populations sont très très appauvries aujourd'hui et il y a la famine qui est en train de nous menacer aujourd'hui.
Parmi les 16 000 âmes de Tonka, les femmes sont les plus nombreuses. Aujourd'hui, elles sont dans l'angoisse totale. Korko Fanta Maïga, membre de la CAF.
Il y a l'insécurité qui domine dans la commune. Il y a la violence faite aux femmes et aux filles par des bandits armés et des individus inconnus. Il y a les enlèvements des biens et enlèvement même d'individus. Il y a l'exode des jeunes parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a la crise totale parce qu'il y a la faim dans la commune. La récolte n'est pas dense. Dans le lac, il y a les tarés qui ont amené les bétails pour manger les récoltes. C'est un peu difficile ici.
Le chef de village a égrené devant nous les localités susceptibles d'attaque au quotidien. Nous, Issa Sangaré, chef de village de Tonka.
Les zones de Tonka, là où il y a beaucoup d'attaques, c'est le côté Yurmi, Pintara, Echel, Tamashi et un peu sur la route de Gounda. L'armée est là sur la colline, mais pas avec les populations. Ils sont sur la colline. La solution de ce problème-là, il faut que nous nous asseyons pour parler et discuter de nos problèmes.
La seule satisfaction des habitants de Tonka est le fait que l'école fonctionne normalement. Boubacar Ali Djama, président du conseil régional de la jeunesse de Tonka.
Une grande ville comme Tonka, si on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau potable aussi en fait. C'est la commune dans laquelle les écoles sont plus fonctionnelles. Malgré l'insécurité résiduelle, les écoles quand même marchent.
Quelles sont les activités de la jeunesse?
Ça c'est d'abord, il y a l'agriculture, après la pêche ainsi que l'élevage.
Malgré la présence de l'armée malienne à travers un détachement, les femmes ne sont pas tranquilles dans la localité de Tonka.
Il y a l'inondation des villages et des récoltes aussi. Des périmètres ont endommagé les récoltes. On a l'appel parce qu'on a On est dans l'insécurité totale. On ne peut même pas marcher à 45 km de la commune. Il y a la famine, il y a les maladies, il y a la souffrance, surtout les viols même.
En plus du manque d'eau potable, d'électricité et de l'insécurité, Tonka fait face à une famine parce que les cultures ont été envahies par les eaux de pluie. Tonka, Kassim Traoré pour VOA Afrique.
Les États-Unis ont estimé hier que des irrégularités lors du scrutin présidentiel au Cameroun font douter de la crédibilité de la victoire de Paul Biya. Et Washington appelle toutes les parties à régler leurs différends par les voies légales. C'est le point que nous fait ici Abdourahman Dia.
Tout en saluant l'amélioration par rapport aux élections de 2011, il y a eu un certain nombre d'irrégularités avant, pendant et après le vote du 7 octobre, a révélé Heather Nauer, porte-parole du département d'État américain. Ces irrégularités ont pu ne pas affecter le résultat final, mais ont créé une impression que l'élection n'était pas crédible ou vraiment libre et équitable, a-t-elle poursuivi, tout en exhortant toutes les parties, y compris le gouvernement, à résoudre pacifiquement tout litige à travers les canaux légaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a aussi lancé un pareil appel à suivre la voie légale en cas de contestation. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans, dont 35 ans au pouvoir, a été réélu pour un septième mandat avec 71,28% des suffrages. Les résultats officiels ont été publiés hier par le Conseil constitutionnel qui avait déjà rejeté tous les recours des candidats de l'opposition.
En Guinée équatoriale, 34 membres du principal parti d'opposition ont été libérés hier, 12 jours après l'annonce d'une grâce présidentielle. Au Nigeria, 2 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village par le groupe djihadiste Boko Haram près de Chibok, dans le nord-est du Nigeria, qui est frappé par une recrudescence d'attaques ces dernières semaines. Et des combattants ont envahi le village de Mifa, à 7 km de Chibok, dans l'état du Borno, où ils ont tué 2 habitants et incendié les maisons après avoir pillé les vivres et le bétail. On se rappelle que c'est dans la ville de Chibok que plus de 200 jeunes filles avaient été enlevées dans leur internat en 2014, suscitant l'indignation du monde entier. 52 personnes sont mortes en détention préventive à Madagascar en 2017 en raison d'une paralysie de son système judiciaire, a annoncé ce matin Amnesty International. Les conditions misérables dans lesquelles les personnes en détention préventive sont maintenues constituent clairement un traitement cruel, inhumain et dégradant, peut-on lire dans un rapport intitulé « Punis pour être pauvres » et qui se fonde sur des visites effectuées dans 9 établissements pénitentiaires. Le président par intérim de Madagascar, Rivo Rakotovao, a jugé le constat d'Amnesty triste et inacceptable dans un communiqué. Ici, aux États-Unis, le conseiller à la Maison Blanche, de la Maison Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, a rencontré ce mardi le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, au lendemain des entretiens intenses avec plusieurs hauts responsables russes centrés sur le retrait américain d'un traité nucléaire avec Moscou. John Bolton a déjà discuté du sort de ce traité hier lundi avec le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et a aussi passé près de 5 heures avec Nikolai Patrouchev, le secrétaire du Conseil russe de sécurité nationale. John Bolton doit s'entretenir aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine, selon le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Les forces kurdes en Syrie, fer de lance de la lutte contre le groupe État islamique, détiennent des centaines de djihadistes étrangers présumés, mais aussi des femmes et des enfants. Ce dossier constitue un véritable casse-tête pour les autorités semi-autochtones kurdes qui refusent de juger ces étrangers et réclament leur rapatriement vers leur pays d'origine. Et en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé aujourd'hui que toutes les personnes impliquées dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, y compris les commanditaires, devraient être punies. La conscience internationale ne sera apaisée que lorsque toutes les personnes impliquées, partant des exécutants aux commanditaires, auront été punies, c'est ce qu'il a déclaré lors d'un discours devant le groupe parlementaire de son parti, proposant que 18 suspects arrêtés en Arabie soient jugés à Istanbul parce que les faits se sont déroulés en Istanbul. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter notre page voaafrique.com. Je vous retrouve dans 1 heure pour un autre bulletin. En attendant, restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique, la chaîne qui vous donne des informations en temps réel. Et notre page Facebook, je répète, c'est voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.